professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice, bonjour les auditeurs.
Santé intégrative avec Vincent Renaud, chaque mardi c'est une escapade.
Une petite
échappée, puisque là par exemple on est avec vous dans votre cabinet.
Et oui, aujourd'hui on joue à domicile. Et de temps en temps, ça fait du bien aussi de venir vous retrouver dans ce merveilleux studio à Nice, qui est très confortable, très agréable. Mais là, les impondérables du direct nécessitaient que ce soit vous, cette fois-ci, qui me rendiez visite.
Moi, je vous vois bien à l'époque, un peu comme Michel Blanc, à l'époque de SOS Médecin. Vous vous souvenez de cette série? Les mecs, ils avaient son petit gyrophare, ils se déplaçaient. Vous avez jamais fait de la visite à la domicile, si. Vous?
Ah, j'en ai fait beaucoup, moi.
C'est vrai? Et vous aviez un petit gyrophare aussi?
Oui, j'étais médecin.
Non, c'est vrai?
J'étais médecin capitaine des pompiers, j'avais 3 antennes sur le capot de ma voiture. C'est l'époque des CB. Où on communiquait juste par la CB. On avait un radio, gros radio com 2000, hein, mon téléphone portable, il faisait au moins 20 kilos, c'était une grosse valise. Et puis j'avais ma trousse d'urgence, j'avais
donc
tout
vous
ce
aviez
qu'il
le
faut.
Petit gyrophare.
Et j'avais le petit gyrophare.
Je suis sûr que vous le mettiez pour aller acheter le pain le dimanche matin, vous.
Non, on n'a pas le droit. C'est contrôlé. Si vous faites choper par la police pour un usage abusif, vous risquez...
Il est où ce gyrophare?
Ah ben, je l'ai rendu quand j'ai quitté ma Normandie.
Ah, je vous imagine tellement arrivé.
J'ai rendu mon... Ouais, voilà, j'avais un petit deux tons. Bip, 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 bip. Comme ça me permettait d'arriver plus vite.
Oh là là. Alors, il y a des vidéos qui circulent du docteur Renaud avec son gyrophare.
Je sais pas, mais là, si vous en trouvez, effectivement, c'est collector. Parce que je pense qu'à l'époque...
Vous aviez quoi comme voiture?
J'avais une petite Renault Clio.
Ah oui, c'est à peu près la même chose que SOS Médecin, la série, série qui était extraordinaire, franchement. Mais bon, là, on est en séquence nostalgie.
Nostalgie. Voilà, mais j'avais pas les gros écussons placardés sur mes portes. Et puis, de temps en temps, j'utilisais la voiture de service des pompiers. Alors, j'étais bien, là, j'étais content.
Et vous êtes arrivé des choses un peu extraordinaires en visite ou pas? Vous avez des anecdotes, hein?
Oui, j'en ai pas très gay, malheureusement.
Ah, d'accord.
Parce que reste des urgences, des fois, un peu pathétiques.
Non, mais bon.
Si, j'en ai eu. J'ai fait une visite à domicile avec un humoriste que certaines personnes connaissent.
Allez,
mais c'est un humoriste connu, mais je ne vais pas la raconter parce que c'est la vie privée de cet humoriste et c'est la vie privée du patient.
Mais vous l'avez découvert quand vous êtes allé chez lui?
Non, il dînait à la maison m'a dit, tiens, si tu veux, j'étais appelé à 2h du matin pour un syndrome abdominal, justement, ça tombe bien, c'est le sujet douloureux, chez une jeune fille de 12 ans. À 2h du matin, la mère m'appelle... Un peu catastrophé, ma fille a mal au ventre, elle vomit, etc., etc. Donc je dis à mes amis, on était une dizaine à table, ben je vais vous laisser un petit moment. Donc quand je partais comme ça en pleine nuit, ça pouvait durer une heure, voire des fois une heure et demie. Hein. Puis des fois, j'étais obligé de rester sur place si j'avais besoin d'appeler le SAMU. Il n'y avait pas d'SOS médecin, rien du tout. Donc c'était le SAMU et il mettait facilement une demi-heure, trois quarts d'heure à arriver jusque chez mes patients. Et donc j'avais une personne un peu connue dont je tairai le nom. Qui était à ce repas et qui me dit bah, « Écoute, je t'accompagne, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir la vie d'un médecin de campagne, comment ça se passe, une visite à domicile. » Je lui dis bah, « Écoute, si tu veux. » Et on est partis comme ça, tous les deux, vers 2h du matin, au fin fond d'une petite ferme perdue au fin fond de la campagne normande. Et on a passé un bon moment. Bon, la jeune fille, malheureusement, avait un syndrome abdominal douloureux. J'ai dû la faire hospitaliser, ça a duré longtemps. Et c'était ce que je craignais, bon, famille un petit peu complexe, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans le détail. Mais en tout cas, c'était une expérience assez intéressante et qui a d'ailleurs suscité une idée de sketch pour cet humoriste, dont j'ai pas eu de droit d'auteur. D'ailleurs, j'aurais pu lui demander, mais attendez, là, vous parlez de moi, là.
Il s'est inspiré. Bon, en tout
il
cas,
s'est inspiré de ce fait de vie, d'une urgence de campagne. Et peut-être qu'un jour, je raconterai tout ça dans mes mémoires.
On a hâte de les lire. Bon, en tout cas, merci à notre partenaire laboratoire COPMED sur ses émissions, spécialiste de compléments alimentaires en tout ce qui concerne la micronutrition et bien au-delà même. Merci à eux. Qu'est-ce que j'allais vous dire, Vincent ?
Merci beaucoup.
La semaine dernière, on a fait des émissions là, sur la médecine conventionnelle versus médecine fonctionnelle, et même pas versus, puisqu'en vérité, on va être dans une complémentarité d'activité. Donc, il y a une première visite chez le médecin qui s'accompagne d'un diagnostic, en général...
un diagnostic.
Non, en tout cas,
Un bilan. Une recherche étiologique. De ce syndrome abdominal douloureux, alors, plus exactement. L'étiologie, c'est comprendre les mécanismes qui pourraient être en cause dans ce symptôme.
Alors, on a fait les douleurs abdominales. La semaine d'avant, on avait fait la migraine. Et après, on voit tout de suite après comment ça se passe. Non, pas du
alors,
tout.
Alors, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe.
Je vais recontextualiser. On voit aujourd'hui... Ah là là, il est pressé. Donc, la médecine fonctionnelle qui, elle... en complément de la médecine conventionnelle, va aller peut-être plus loin une fois que les analyses ont été faites, que vous avez fait tout ce qu'il faut et qu'on vous dit « bah non, c'est dans votre tête, c'est comme ça ». On peut aller plus loin grâce à la médecine fonctionnelle. Et sur le syndrome du mal de ventre,
oui,
qu'on a évoqué la semaine dernière, on manquait peut-être de solutions, on n'avait pas eu le temps, parce qu'on a pris le temps de parler aussi d'autres choses après. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur des solutions encore une fois que les personnes sont allées consulter leur médecin,
qu'ils
ont suivi les protocoles, qu'ils ont tout suivi, qu'ils ont tout bien fait, mais qu'ils ont encore des difficultés, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place qui vont nous faciliter la vie ?
On va aller vite dans le concret. C'est mieux de prendre un exemple parce que comme ça, au moins pour les auditeurs, ça leur parle plus. J'ai récemment une jeune fille qui m'était adressée par un grand professeur, d'ailleurs le père que je connaissais est un éminent professeur cardiologue, et qui un jour lors d'un repas chez un ami me dit « écoute, je suis embêté, ma fille a énormément mal au ventre, elle a tout le temps des coliques, elle ne peut rien manger, elle se plie de douleur. » Je l'ai envoyé voir un de mes collègues gastro-entérologues, le professeur Duchemol du CHU Bidule, éminent spécialiste. Il a fait tous les examens, il a fait fibro, colo, et il trouve rien. Et j'ai cru comprendre que toi, tu avais une approche un peu différente de cette approche conventionnelle. Je lui dis, bah, écoute, oui, pourquoi pas, bien sûr, envoie-moi ta fille. Sa fille, 21-22 ans, étudiante en droit, profil un peu stressé, donc je l'ai eu en téléconsultation, vous voyez, donc je n'ai même pas pu examiner son ventre, mais en médecine fonctionnelle, l'examen clinique n'est pas prioritaire. Ça l'est évidemment en médecine conventionnelle, parce qu'il faut éliminer un abdomen chirurgical. S'il y a vraiment, on sent une masse, une boule, quelque chose qui pourrait être préoccupant, là évidemment, il faut palper l'abdomen, il faut interroger, voir parfois des choses moins agréables comme un toucher rectal, mais ça fait partie de l'examen pour rechercher s'il n'y a pas une poche, alors ça s'appelle le cul-de-sac de Douglas, mais quand il y a une douleur au toucher rectal, c'est que ça peut être quand même une urgence chirurgicale. Là, pas du tout. En fonctionnel, nous, on imagine cette jeune fille avait déjà fait tout. Elle avait vu le plus grand professeur de gastro-entérologie. Donc, elle avait déjà évidemment fait fibro, colo, des examens en veux-tu, en voilà. On avait éliminé une maladie de Crohn, une rectocolite. Et la conclusion du gastro-entérologue, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, certainement dû à un stress lié à vos études. Et donc j'ai cette jeune fille en première consultation, elle me raconte toute son histoire, et là je lui prescris donc un bilan en tout cas du microbiote déjà, et je lui fais faire une recherche d'intolérance alimentaire, et je lui fais faire des tests dans les urines qu'on appelle les métabolites organiques urinaires pour rechercher s'il n'y a pas une perturbation du microbiote. J'étais persuadé qu'il y avait un lien, parce qu'elle avait fait une grosse intoxication alimentaire quelques années auparavant, lors d'un voyage à l'étranger, et depuis cet épisode, elle avait gardé quand même des séquelles et une fragilité abdominale. Et donc le gastro-entérologue qui la suivait ne voulait pas entendre que c'était probablement un syndrome post-infectieux de l'intestin irritable et qui va développer donc une inflammation, une hyperporosité intestinale, une dysbiose qui peut durer des années et des années. Je rappelle que 25% des ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable sont liés à des composantes infectieuses, sont des séquelles d'une infection ancienne et qui va revenir régulièrement, peut-être amplifiée par le stress. Ça, c'est sûr que le stress joue un rôle important, mais aussi lié à nos modes de vie, à son alimentation. Donc on a fait des recherches grâce aux laboratoires partenaires avec lesquels je travaille sur le microbiote, rechercher des marqueurs de l'inflammation et de la porosité intestinale. Vous avez un marqueur important qui s'appelle le LBP, lipopolysaccharide binding protein. J'ai recherché des intolérances à l'histamine, mesuré l'activité d'une petite enzyme qui s'appelle DAO, diaminoxydase. Il existe maintenant un laboratoire en France qui commercialise d'ailleurs cette fameuse enzyme qui permet de dégrader l'histamine. Et quand je l'ai revue avec tous ces résultats d'analyse pour le microbiote, les intolérances alimentaires, plus les problèmes de porosité intestinale, elle était dans le rouge quasiment partout. Elle avait une intolérance au gluten très importante qu'elle avait développée post-infectieuse depuis 7-8 ans. Elle avait aussi un problème au niveau de son histamine. Elle dégranulait, elle avait des mastocytes et donc des cellules qui dégranulent de l'histamine et qui étaient toujours hyper stimulées par ce syndrome post-infectieux. Et en fait, quand on a une infection virale, il y a des traces de ces infections qui peuvent rester pendant plusieurs années, virales ou bactériennes, avec des traces inflammatoires. Elle avait développé aussi ce qu'on appelle le SIBO. On en a parlé, SIBO, ISO. Donc c'est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, avec en particulier, à cause probablement de cette intoxication alimentaire, une atteinte neuro-inflammatoire sur les cellules neuro-entérocytaires qui bloquaient la contraction de cet intestin, en particulier au niveau du complexe moteur migrant, qui est ce fameux muscle qui sert de chasse d'eau et qui draine et qui vidange le grêle. Donc elle avait une insuffisance au niveau de la motricité de son intestin grêle, un microbiote perturbé, aussi bien dans le côlon que dans le grêle, une hyperporosité intestinale, une intolérance à l'histamine avec une diaminoxydase en perte d'activité et une grosse intolérance au gluten. La recherche sur la candidose et les dysbioses fongiques étant négative. Donc c'était déjà pas mal. Donc là, on a pu mettre en place évidemment un premier protocole, éviction alimentaire.
Oui, j'allais dire, on va peut-être revenir sur les solutions que vous avez mises en place pour elle juste après la pause.
Ah ben c'est volontiers.
Oui, parce que là, on est pendu à vos lèvres. On revient dans un instant sur Nutri Radio, c'est santé intégrative avec le docteur Vincent Renaud.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Le docteur Vincent Renaud sur Nutri Radio, santé intégrative avec ce cas d'étude, ce cas patient.
Un cas tout à fait intéressant. Parce que adressé par un confrère médecin,
et donc
on va complètement dans la médecine conventionnelle, et qui était très sceptique avant de me l'envoyer en me disant bah, tiens, on va tester si la médecine fonctionnelle peut apporter une réponse là où moi je suis professeur universitaire dans une grande faculté de médecine française.
On recontextualise pour les auditeurs qui viendraient d'arriver. Donc Vincent Renaud nous raconte et nous partage l'expérience qu'il a eue avec cette patiente, une jeune femme qui était en proie à de douloureuses douleurs gastriques, abdominales, qui a fait tous les tests, toutes les fibrocolo, tout.
Coproculture, parasitologie des selles, tout était négatif.
Et son confrère donc l'adresse à Vincent en disant bah, tu peux peut-être l'aider. Et donc là, c'est là où, encore une fois, on vous conseille évidemment de vous rapprocher de votre professionnel de santé dès qu'il y a un souci. Mais après, au-delà, si rien ne passe, c'est là où la médecine fonctionnelle aussi peut vous aider pour aller faire des recherches plus poussé dans les analyses que vous avez faites et que vous nous avez décrites. On ne va pas revenir, cette émission sera dispo en podcast tout à l'heure, mais là on arrive surtout sur les solutions. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'aider à se sortir de là, et vous nous direz après aujourd'hui comment elle se sent.
Premièrement, gestion de son stress. Effectivement, elle était stressée, jeune étudiante en droit. elle avait des douleurs qui étaient renforcées durant les partiels. Donc je me suis dit, il y a quand même une composante émotionnelle. Il y a pas de hasard, qu'est-ce qui vous gonfle, hein, c'est les expressions de l'intestin, voilà. Et donc on verra pour le dos, bah, là aussi j'en ai plein de dos, mais pour le ventre, c'est qu'est-ce qui me gonfle, il y a quelque chose que je ne digère pas bien. Donc le stress forcément a un lien, mais il ne faut pas tout ramener au stress. Donc on a commencé à travailler sur la respiration abdominale. Je lui ai demandé de faire des exercices, en particulier quand elle commençait à sentir les spasmes douloureux. Et on a travaillé sur son système sympathique parasympathique. Je lui ai fait acheter une petite puce qu'on met dans l'oreille qui permet de moduler, de gérer son système sympathique qui m'avait été recommandé par un gastro-entérologue d'ailleurs, qui est très sensibilisé à l'approche émotionnelle sur le syndrome de l'intestin irritable. Elle avait en même temps une intolérance à l'histamine, donc j'ai fait la liste des aliments histaminolibérateurs ou les aliments qui contiennent beaucoup d'histamine, puisque ça peut être dans les deux cas. Soit vous avez certains aliments qui augmentent la dégradation et la production d'histamine du bol alimentaire, soit c'est les aliments eux-mêmes qui en contiennent beaucoup, en particulier ce bon chocolat noir que j'aime bien consommer de temps en temps, le cacao, contient beaucoup d'histamine. Vous avez beaucoup d'histamine dans les tomates, les fraises, les épinards, certains
poissons. Ça, c'est pas bon pour les allergiques.
Ah non, on ne parle pas d'allergie, on parle d'intolérance à l'histamine.
Oui.
Quand vous avez une intolérance à l'histamine, c'est que vous avez une instabilité des cellules mastocytaires. Les allergies, ce sont des pathologies médiées par les IgE, les immunoglobulines E. Donc c'est tout à fait différent. Là, ça s'adresse aux allergologues.
On parle d'antihistaminique des fois, c'est
ben
pour
oui,
ça.
Oui, c'est là où il y a effectivement une frontière qui n'est pas toujours évidente à franchir. Les allergologues n'entendent pas du tout ce discours, parce que pour eux, les seules allergies qui existent, c'est celles qui sont médiées par les IgE, immunoglobulines E. Et effectivement, elles augmentent la dégranulation de l'histamine par un mécanisme anticorps-antigène, un pollen, un graminé, une piqûre de moustique, vous êtes piqué, vous avez une boursouflure, vous gonflez, vous avez la langue qui double, qui tripe parce que vous avez été piqué par une guêpe ou une abeille, si vous êtes très allergique, par exemple, au venin de certains animaux, mais ça peut être pour énormément d'autres substances. Donc ça, c'est des allergies, vous faites éventuellement une désensibilisation, vous prenez des antihistaminiques pour contrôler, mais c'est totalement différent. Les intolérances à l'histamine sont liées à une mauvaise dégradation d'histamine d'origine alimentaire, qui est produite au moment de la dégradation des nutriments par la flore intestinale en particulier, qui dégrade une partie des nutriments pour les rendre absorbable et assimilable, grâce aussi à des systèmes enzymatiques et des enzymes comme la DAO qui dégrade cette molécule d'histamine qui est ni plus ni moins qu'un dérivé amine. Histamine, les amines biogènes, ce sont des produits dérivés des acides aminés qui sont ni plus ni moins que les protéines contenues dans les aliments. Donc certains aliments contiennent plus d'histamine que d'autres. Et d'autres vont avoir plutôt un effet, par exemple l'alcool ou le café va augmenter la dégranulation des mastocytes qui sont présents dans les intestins, qui vont libérer plus d'histamine, et cette histamine, eh ben, soit elle est recyclée par le cycle entérohépatique et elle repasse dans le corps, et là c'est pas bon, ça va déclencher des maux de tête, des vertiges, des chutes de tension, tout un tas de symptômes, des démangeaisons, des brûlures, le nez qui coule, enfin des manifestations pseudo-allergique, mais on n'est pas dans une allergie vraie médiée par IgE. Alors, on pourrait se dire que les gastro-entérologues peut-être pourraient s'octroyer le droit de diagnostiquer, de traiter ces intolérances à l'histamine. Il n'en est rien, alors que c'est une pathologie intestinale. Et en fait, les seules personnes qui sont un petit peu habilitées, qui semblent, je parle dans la médecine conventionnelle, qui sont réceptifs à ce discours, ce sont les médecins dits internistes. Les médecins spécialisés en médecine interne dans les grands CHU, ce sont des personnes un petit peu Dr House. C'est ceux, moi je me rappelle, j'envoyais des patients à problème, c'est-à-dire que quand à un moment donné je peinais sur un diagnostic et je tournais en rond, eh ben on envoyait quand même aux médecins spécialistes de médecine interne qui allaient refaire toute l'histoire. Donc eux, ils ont intégré cette intolérance à l'histamine, ils appellent ça le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. On en avait déjà un peu parlé, on pourra refaire une émission sur ce syndrome, parce que c'est pas une maladie. Donc toujours est-il que cette jeune fille, elle avait une dégranulation des mastocytes excessive, elle libérait beaucoup d'histamine chaque fois qu'elle mangeait. Cette histamine passait dans le sang et allait provoquer tout un tas de symptômes, fatigue, maux de tête, insomnie, etc. Plus des petites manifestations allergiques, des troubles digestifs avec ballonnement, gaz et inconfort intestinal. Comme elle avait un SIBO, elle dégradait mal les aliments et les nutriments, dont l'histamine, et ça provoquait des gaz inconfortables et des troubles de la motricité de son intestin grêle. On a éliminé évidemment le gluten, puisqu'elle était très intolérante au gluten. Bon, ça c'était assez simple. Elle avait commencé à le faire d'elle-même, même si le gastro-entérologue lui avait dit « ça sert à rien, mais bon, oui, tu peux toujours arrêter le gluten ». Bon, il y a beaucoup encore de médecins, malheureusement, qu'on appelle des gluten sceptiques, alors que c'était décrit vraiment dans la littérature, ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une maladie cœliaque, qui est une vraie allergie au gluten. Ce sont des gens qui ont une hypersensibilité de type 3 ou 4. Et ces gens-là, vous leur arrêtez le gluten, vous les améliorez de manière spectaculaire. Et c'est vraiment très simple à faire. Donc ça, c'était déjà sur le plan du conseil. Donc on a fait le conseil sur les émotions, gestion du stress, conseil sur l'assiette. Et maintenant, voyons les compléments alimentaires qu'on va pouvoir utiliser. Alors comme elle avait une grosse intolérance à l'histamine, je lui ai apporté cette fameuse enzyme DAO d'origine végétale à prendre en début de chaque repas. Alors je préfère effectivement la forme végétale que la forme animale. Il existe deux formes de DAO, de diaminoxydase. Il semblerait que la forme végétale et la forme animale aient à peu près la même activité en termes de réponse au niveau du traitement. Et après, pour des raisons peut-être d'éthique, certaines personnes préfèrent utiliser des plantes que des produits, ce qu'on appelle de l'organothérapie, des produits issus des glandes animales. Bon, ça c'est aussi un choix que chacun peut faire. En France, c'est pas très autorisé. Tout ce qui vient des animaux, depuis le scandale de la vache folle, on est beaucoup plus vigilant, on préfère tout ce qui est naturel ou végétal. Ensuite, je lui ai évidemment traité son SIBO, on a relancé l'activité de son complexe moteur migrant qui était complètement épuisé. Donc là, on va utiliser des plantes prokinétiques qui vont aider un petit peu à drainer et vidanger son intestin grêle. On a désinfecté son tube digestif avec des huiles essentielles. Origan par exemple, le nîmes et d'autres huiles essentielles qui sont très actives, la cannelle aussi marche bien. Pardon. Et enfin, alors ça, les huiles essentielles, il faut les utiliser avec beaucoup de prudence parce qu'il y a une certaine forme d'hépatotoxicité. Et puis, des fois, ça dépend de ce qu'on trouve aux examens du microbiote. Là, en l'occurrence, elle avait aussi un petit peu de bactéries qu'on appelle sulfidogènes qui produisent du soufre, de l'H2S. Et donc, il faut un petit peu les neutraliser. Il va falloir limiter les œufs, le chou. Et tout ça, c'est rentré dans l'ordre petit à petit. On a travaillé sa porosité intestinale en mettant évidemment de la glutamine, mais aussi des polyphénols, de la quercétine, du boswellia, du zinc, du sélénium, du magnésium et tous les composés phytoactifs qui permettent de réparer la barrière intestinale. Et elle avait un petit problème dont on pourrait même peut-être pas consacrer une émission, mais elle avait surtout, j'ai détecté quelque chose qu'ignorait le gastro-entérologue lui-même, le grand professeur. Il a d'ailleurs très bien pris le fait que j'ai pris la main et que de voir que la fille de son meilleur ami cardiologue était entre les mains d'un médecin fonctionnel, ça aurait pu effectivement le vexer. Et bon, a priori, il l'a plutôt bien pris. Il a dit je suis ravi et je lui fais découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Et en particulier, cette jeune fille, je lui ai fait le dosage du FUT2. Le FUT2, c'est une petite enzyme, fucosyl transférase 2, dont vous avez peut-être entendu parler, monsieur Fabrice. Le FUT2, c'est une enzyme qui permet de renouveler votre mucus. Le mucus, c'est cette couche qui nous protège au niveau de l'épithélium digestif et qui héberge et fixe notre microbiote. Et ce FUT2, il s'implante à la naissance, il s'implante à la naissance, et vous allez avoir des molécules naturelles dans le lait maternel, qu'on appelle les 2-fucosylactoses. Ce sont des sucres particuliers qui sont distribués, donnés par le lait maternel, et qui vont permettre de relancer l'activité du mucus via cette enzyme FUT2. Il se trouve que dans la population caucasienne, il y a plus de 40% de personnes qui sont non sécréteur de ce FUT2, ce qui est quand même assez important. Ça veut dire que presque 40% de ces personnes qui sont déficitaires de cette enzyme ne renouvellent pas bien leur mucus et donc du coup vont avoir des gros problèmes pour développer un bon microbiote. En particulier, ça va favoriser l'apparition des mycoses ou des candidoses digestives et ça va perturber le bon développement et le bon renouvellement d'une bonne flore de fermentation, en particulier la flore bifidogène qui est protectrice et bénéfique pour notre santé. Et donc cette jeune fille était non sécrétrice homozygote, c'est-à-dire que le père et la mère lui avaient transmis ce polymorphisme. On parle de polymorphie, ce n'est pas une maladie génétique, hein, c'est une maladie, on parle d'épigénétique. Donc il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui ont peut-être ce polymorphisme et qui pour l'instant se portent très bien. Et donc pas de souci, il n'y a pas forcément besoin de faire cet examen qui coûte dans les 60 euros à tout le monde. Il se trouve que là, moi, je passe derrière un grand professeur, un grand ponte. Là, j'ai sorti le grand jeu. Hein. J'ai voulu faire... Et j'ai trouvé, évidemment, une cause à ces troubles. Et ça, ça l'a rassuré. Je lui ai dit, voilà, tu as mal au ventre pour telle et telle et telle raison. On va mettre en place... Alors, du coup, le 2-fucosylactose, il existe sous forme de complément alimentaire. On l'intègre souvent dans des produits de base pour réguler la porosité intestinale. Voilà, notre partenaire connaît ça bien puisqu'ils ont développé un produit là-dessus. Mais il y a d'autres labos qui le font. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, vous faites des cures de 2-3 mois, c'est minimum 6 mois de traitement sur cette porosité. On régule le bon fonctionnement des bactéries en apportant un peu de fibres et on essaye de moduler l'activité de l'histamine en apportant un petit peu de DAO. Ça, c'est concret.
Alors, comment ça s'est...
Aujourd'hui, elle va très bien.
Au bout de combien de temps elle a été
Au bout de 6 mois.
Au bout de 6 mois, il n'y avait plus rien.
Alors, il y a eu une réflexion quand même que j'ai, qui m'a un peu déplu. Mais il ne me l'a pas dit à moi en face, le gastro-entérologue, parce qu'en fait, cet ami cardiologue m'a dit « il faut vraiment que tu te mettes en relation avec le professeur Duchemol, parce que tout ce que tu me dis, finalement, c'est passionnant, mais les gastro-entérologues devraient être informés de tout ça. » Alors, parce que lui, forcément, étant très proche, ils sont tous les deux dans la même fac, l'a tenu au courant et informé des analyses que je lui avais fait pratiquer. Et je m'attendais à un beau, ces examens, j'y crois pas trop, etc. Il a quand même été intrigué, il a dit, tiens, oui, ça semble intéressant, parce que, en plus, les noms des laboratoires avec lesquels je travaille, que ce soit pour les compléments ou que ce soit pour la biologie fonctionnelle, sont quand même des laboratoires sérieux, qui ont pignon sur rue, qui publient, qui ont des études, etc. Et du coup, il s'est quand même beaucoup penché sur l'histoire. Il a été très intrigué. Il y a une phrase, par contre, qu'il a dit à cette patiente, non, pas la patiente, mais au père de la patiente, le cardiologue. Il a dit « Oui, bon, écoute, elle va mieux maintenant, mais t'inquiète, ça va revenir. » Alors ça, j'ai dit « Mais comment on peut avoir aussi peu de psychologie pour dire ça ?» Et ça, c'est le coup près. Alors, heureusement... que cette jeune fille brillante, intelligente, etc., quand je l'ai rassurée, elle m'a dit « Mais ça va revenir, docteur. Est-ce que je vais toute ma vie avoir ce problème, comme le dit le professeur machin ?» Je lui ai dit « Non, de toute façon, il reste quelque chose, toujours une trace de cette inflammation de l'intestin. À partir du moment où vous respectez une hygiène alimentaire, un bon mode de vie, il ne faut pas oublier que des jeunes étudiants, quand ils quittent le foyer familial, et c'était le cas, chez papa, maman, on mange très bien, on mange à heure fixe, on mange des produits non raffinés, non transformés, maman fait la cuisine, etc. Et quand on arrive, c'est ce qui s'est passé avec mes enfants, hein, c'était spectaculaire, quand on est en chambre d'étudiants et qu'on se retrouve à 200, 300, 500, 1000 km du bon foyer familial, vous croyez qu'ils bouffent quoi, les étudiants? Qu'est-ce qu'il y a dans les frigos?
Ah oui, écoutez,
c'est pas terrible.
C'est pas
donc,
terrible.
Pendant 2-3 ans, voire plus, parce qu'elle a fait plus de 5 ans d'études, elle mangeait très mal. Moi, je lui ai dit, il y a eu plusieurs faisceaux de choses qui ont contribué à tes douleurs abdominales. Le déracinement, le fait que tu quittes le foyer papa-maman, c'est quand même un choc émotionnel, hein, c'est pas évident. Le fait que tu aies changé d'alimentation radicalement, que tu te retrouves avec des horaires à bosser beaucoup la nuit, à réviser les partiels, etc. Et le fait qu'elle ait fait une infection lors d'un séjour au Maroc, où elle a ramené effectivement une bactérie.
Merci beaucoup Vincent, je vous interromps. Mais ben, voilà,
on a trop parlé encore une fois.
Mais non, on parle jamais trop, mais à un moment donné, vous savez, il n'est de meilleure compagnie qu'il ne se quitte. Donc là,
exactement,
on est obligé de laisser la place à l'émission suivante. Dans un tout petit instant, c'est sur Nutri Radio, c'est Angélique Coulbert. Hop, vous restez avec nous évidemment. Si vous nous écoutez en podcast, l'émission elle sera dispo tout de suite, là, maintenant, je suis en train de vérifier. Allez sur le site Nutri Radio. Ouais, c'est la magie. On n'a même pas fini la phrase. Boum, l'émission est dispo en podcast. Comment font-ils ? Comment font-ils cette folie ? On se retrouve la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, voilà, j'en ai plein le dos.
J'en ai plein le dos. On va parler du dos. Et on est nombreux aussi à avoir des petits maux de dos, comme ça, un petit peu chroniques. Et c'est fou, hein, dès qu'il y a une petite pierre là, dans les rouages, on est perdu. On est
absolument. Perdu.
Allez, retourne à la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.